mode d'emploi.
Bienvenue sur Mode d'emploi, donc le format secret de fabrication où nous allons parler donc de la vie dans les entreprises, des résistances. Alors aujourd'hui, une émission spéciale. Hier et avant-hier, donc le 16 et le 17, ont eu lieu les états généraux de la santé au travail, donc qui ont rassemblé plus de 500 syndicalistes, inspecteurs et contrôleurs du travail, médecins du travail, membres de CHSCT, experts au CHSCT. Sociologues du travail et salariés venus de tous horizons pour discuter donc des conditions de travail et de comment elles se dégradent, comment on peut résister, comment on peut prendre en compte ces facteurs-là. J'ai le plaisir d'avoir avec moi à l'antenne Daniel Linard. Bonjour.
Bonsoir.
Daniel, bonsoir. Donc Daniel, donc c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. Est-ce que tu peux rapidement nous dire, un peu te présenter aux auditeurs ?
Oui, je suis sociologue du travail, chercheur émérite au CNRS et je travaille essentiellement sur les transformations du management et de l'organisation du travail, essentiellement à partir d'enquêtes empiriques. C'est-à-dire que je vais dans les entreprises et j'observe, je fais des interviews et j'essaye de produire des analyses sur ces transformations.
Ouais, donc on était pendant ces deux jours un peu en plein dans ton sujet là.
Complètement au cœur, à la fois avec en surplomb la question de la réforme de la loi du travail, avec la réforme El Khomri. Donc c'est vrai que ça a motivé encore plus les participants et ça crée une sorte d'état d'urgence à propos des questions du travail. C'est un véritable enjeu parce qu'on risque d'y laisser beaucoup de plumes si on laisse faire ces réformes.
Par exemple, oui. Mais c'est pas... Alors, à chaque fois, on nous dit que c'est la mère de toutes les réformes. Malheureusement, ça fait plusieurs années qu'on a droit à...
Oui, mais là, il semble qu'un pas de plus est franchi. C'est-à-dire qu'on voit concrètement non plus que le gouvernement laisse des petits cadeaux aux entreprises, mais là, il y a vraiment une attaque en règle contre la situation des salariés, contre leurs droits, qui risque d'avoir des effets vraiment très délétères sur leur vie au travail, sur développer des formes de précarité bien réelles, créer des incertitudes, des inquiétudes, et avec cette idée qu'il est absolument normal de rogner sur les droits des travailleurs comme argument pour développer la compétitivité des entreprises, ce qui est quand même extraordinaire. Alors qu'on a parallèlement tout un discours sur des salariés heureux sont des salariés productifs, là on voit véritablement un gouvernement qui est en train de mettre en difficulté une population de salariés de façon tout à fait importante.
Et pourtant, c'était déjà pas glorieux. D'ailleurs, c'est pourquoi nous allons passer des interviews tout au long de l'émission de personnes qui se sont présentées aux états généraux pour parler de leurs problèmes, pour trouver des solutions, pour s'organiser. Donc, on va commencer par deux sons. Ah, à la technique, on me dit que c'est pas encore tout à fait prêt. Je vais présenter les interviews déjà. Nous avons une jeune fille qui s'appelle Claudia qui est venue parce que elle cherche des réponses à ses propres interrogations, hein, y compris ses interrogations de vie, on va dire. Et donc elle est venue aux états généraux pour cela. Et on va enchaîner immédiatement après avec Vanessa, qui, elle, a quitté Pôle emploi pour aller à l'inspection du travail et qui nous explique pourquoi c'était vital pour elle de quitter Pôle emploi face aux pratiques qui se généralisaient dans ce service public. Alors, je vois que...
Ce qui est intéressant sur cette question, c'est qu'on voit que tant le service public que le secteur privé sont concernés. Il y a véritablement pénétration extrêmement forte des logiques du privé dans des secteurs qui normalement devraient être à l'abri de ce genre calcul permanent de rentabilité, de productivité. Dans les hôpitaux, par exemple, ce qu'on voit, c'est une mise en cause de la qualité des métiers, de la possibilité pour les médecins de faire leur travail convenablement. On le voit aussi à l'inspection du travail, on le voit dans l'enseignement public, il y a véritablement un déroulement en marche forcée, peut-être même en marche accélérée, de la logique du privé dans le service public.
Là, je crois qu'on a un intervenant à l'antenne, quelqu'un qui veut parler.
Alors, ouais, moi c'est Christian Agon. Je suis délégué syndical à IBM, je suis représentant du personnel. Et j'ai ma deuxième procédure de licenciement en cours. Voilà.
Autour de
donc,
cette
vous parlez de souffrance au travail, tout ça, les patrons, ils m'ont rendu malade. Après 8 ans de lutte syndicale et de tentative d'établir le. Parce qu'il y en a qui parlent du rapport de force.
Ce que vous êtes en train de dire, cher ami, c'est exactement le quotidien de la plupart des salariés et des agents qui sont désireux de remplir des missions utiles et puis qui n'ont absolument pas les moyens.
Et c'est dur, hein.
Voilà. Et qui subissent des évaluations négatives ensuite.
En plus, bien sûr.
Alors, on va probablement avoir les.
Ça sera reproché.
Voilà. Hein, des auditeurs qui vont dire qu'est-ce que c'est que cette radio qui n'est pas capable de transmettre quoi que ce soit d'intéressant.
Ouais.
Mais effectivement, la réalité du monde du travail, c'est ça. Hein. C'est mise en difficulté.
Là, ça va. J'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même, d'une part. Et puis, deuxièmement, en plus, bon, c'est vrai que quand on est, en train de faire une radio bénévole, on a moins la pression. On est juste en train d'essayer de réussir l'émission. C'est pas très très grave. Non, mais justement, alors donc cette propension du management du privé à s'étendre au public, c'est exactement ce qu'on va voir. Mais déjà, il y avait quelque chose. Quand on est revenu sur le management pendant toute une partie donc des états généraux. D'ailleurs, c'était un des ateliers qui a traversé tous les états généraux. Qu'est-ce qu'on entend par là en fait? C'est-à-dire que c'est quoi cette manière de penser qui est imposé aux salariés. Comment ça se...
Mais c'est-à-dire qu'il y a une idéologie extrêmement dangereuse, pernicieuse en France, qui a été mise en place par le MEDEF et qui est repris par les gouvernements, même de gauche, qui consiste à dire qu'en France, les salariés ne sont pas courageux, sont trop frileux, ne veulent pas travailler. Les salariés français bénéficient de 35 heures, d'un code du travail trop protecteur, enfin de toute une série de paramètres qui les rendraient véritablement inaptes à la guerre économique dont ils nous font tout le temps état. Et donc, c'est sur cette idéologie-là à laquelle ils consacrent énormément de temps et d'énergie qu'ils développent des revendications. Alors, on entend le MEDEF dire, par exemple, il faut libérer le travail, il faut libérer les entreprises. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que le MEDEF s'approprie les entreprises et puis considère que tout ce qui est des garanties ou qui essaye de donner les droits aux salariés, c'est considéré comme un obstacle, un frein à la performance économique. Et alors, ils passent leur temps à nous faire croire que les salariés français sont peureux. Mmh. Mais quand on regarde comment les salariés et les agents du service public sont managés, comment leur travail est organisé, on voit au contraire que la peur, elle est du côté du management qui fait tout pour contraindre, dominer, encadrer, verrouiller le travail des salariés. Alors, c'est très intéressant quand on est sociologue du travail, en tout cas, de voir que, alors que le management prétend avoir rompu avec les logiques tayloriennes et être audacieux, courageux, innovateur, moderne, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils ont à peine relooké les principes fondamentaux tayloriens, et on peut dire que l'organisation du travail, elle fait peser sur les salariés, qu'ils soient cadres ou qu'ils soient ouvriers, techniciens, les mêmes contraintes, le même type de verrouillage que ce qu'avait pensé et mis en place Taylor. Alors, la seule différence, moi, je dirais... C'est bon, parce que là,
je pense qu'on va prendre... Est-ce qu'il est encore en ligne, notre ami?
Donc, je suis toujours là, moi.
Ah, bah super. Alors, à qui ai-je l'honneur?
À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est comme ça qu'on commence. Moi, c'est Christian Agonze. Comme je vous l'ai dit, je suis privé. Je suis dans le modèle abouti du capitalisme. Ça s'appelle IBM. Mm-hmm. 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 12% de moyenne chaque année de croissance. 475 000 employés dans le monde, champion du monde, puisque c'est l'étiquette marketing, champion du monde de la qualité de vie au travail. Mmh. C'est aussi le champion du monde des suicides, des burn-out, des souffrances au travail, des troubles musculo-squelettiques, de tout ce que vous pouvez imaginer effectivement comme souffrance liée à un management manipulateur, prédateur et pervers. Mmh. Moi, pendant 8 ans, j'ai lutté sur le terrain contre ces gens-là, contre le grand capital, contre la grande banque américaine qui est le principal actionnaire d'une société informatique qui n'est plus un industriel, mais qui est uniquement soumise au rendement de l'action et notamment des fonds de pension qui permettent effectivement aux veuves de guerre de pouvoir avoir 3 bagnoles dans le garage, d'aller chaque année en vacances à Hawaï. Je suis dans une société qui est le modèle abouti du capitalisme.
D'accord.
Par rapport à la criminalisation de l'action syndicale, je suis effectivement solidaire des camarades de Goodyear qui connaissent la même réalité que les camarades de Ford, que les camarades d'IBM, que toutes ces boîtes d'origine nord-américaine qui viennent piller effectivement notre argent, puisque contre d'hypothétiques emplois, ils reçoivent chaque année des subsides. Je parle du CICE, je parle du pacte d'austérité, je parle effectivement de tout l'argent qu'ils reçoivent. Et la seule contrepartie, c'est que ce sont des entreprises où sévit, qui sont effectivement des zones de non-droit. Le résultat...
Doucement, camarade, t'inquiète, on t'entend à la radio.
Arrêtez, camarade. La réalité, c'est celle que je donne au téléphone aux auditeurs. Les boîtes américaines en France, ce sont des zones de non-droit, j'ai bien dit, dirigées par de véritables voyous de Chicago.
Ouais.
Et l'État français...
Alors, attends, je t'interromps, excuse-moi.
L'inspection du travail, l'État est complice...
Attends, deux secondes.
...complice de ces boîtes américaines.
Je t'interromps parce que c'est intéressant... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, par contre, il faut... Non, excuse-moi, attends, vas-y. Donc c'est intéressant parce que, justement, on a aussi des exemples de... soit de boîtes françaises... soit de boîtes françaises, soit de services publics français, où justement c'est exactement la même chose qui se passe. C'est vrai que on peut dire que les États-Unis avaient une longueur d'avance dans la mise en place de ces pratiques, mais on a été grandement rattrapés, on les a grandement rattrapés parce que nous allons voir là justement tout de suite avec deux témoignages. Donc issus des états généraux de la santé au travail, comment ces pratiques se propagent et comment elles envahissent donc justement la vie des gens, et à la fois de ceux qui cherchent un travail et de ceux qui sont déjà au travail, y compris dans les services publics, les nôtres là pour le coup.
Donc Claudia, mon parcours?
Oui, pourquoi pas.
Je suis rentrée à 17 ans dans une école de commerce, une école de management, suite à quoi j'ai décidé de créer mon activité en animant des ateliers d'écriture pour libérer la parole des gens, donc ça n'avait rien à voir, et je voulais absolument intervenir dans des entreprises, des grosses entreprises, pourquoi pas des centres d'appel. En fait, j'ai été diplômée le jour où il y avait plein de suicides dans les grosses boîtes. Donc voilà, j'ai pas forcément réussi à intervenir là où je voulais.
Alors juste, je t'interromps. Oui. Tu dis j'ai fait une école de management. Suite à quoi j'ai fait des ateliers d'écriture. Déjà
voilà.
ça m'interpelle. Pourquoi le management? Non, c'était pas ton truc en fait finalement.
Ben non, c'était pas mon truc. Je suis restée jusqu'au bout parce que après la première, deuxième et troisième année, j'ai essayé de partir, mais on m'a dit il faut que tu payes les 5 ans pour arriver à quelque chose, pour avoir un diplôme. Donc voilà, j'ai essayé de finir, mais non, ça me correspondait pas. Ça me correspondait pas. Je voyais pas ce que j'allais faire. Et donc finalement, je suis allée du côté du secteur associatif. J'ai eu l'année dernière le CESAM, le fameux CDI. J'étais la première et unique salariée d'une ligue sportive donc au niveau région, et j'étais agent de développement régional. Managée par des bénévoles qui savaient que je devais développer des activités, les activités des associations, mais en gros ça voulait rien dire. Et il n'y avait aucun projet. J'ai été embauchée parce qu'il y avait des sous, mais pas parce qu'il y avait une raison particulière. Et du coup, j'ai démissionné et je me suis dit bon, je vais comprendre un peu mieux cette histoire de l'organisation du travail, les conditions de travail, pourquoi il y a de plus en plus de mal-être au travail et de souffrance. Et voilà, maintenant j'ai décidé de prendre un job à mi-temps. Je suis réceptionniste de camping et en même temps, je reprends mes études donc sur les conditions de travail et les préventions des risques professionnels.
Donc c'est quelque part, c'est dans cette continuité-là que tu es venu aux États généraux hier et aujourd'hui.
Oui.
C'est ça. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter pour la radio ?
Oui, bonjour, Vanessa, je suis contrôleur du travail aujourd'hui et je viens de Pôle emploi.
Tu viens de Pôle emploi, donc oui. Tu as quitté Pôle emploi.
J'ai quitté Pôle emploi il y a un peu plus de 3 ans, pas par hasard. J'ai voulu quitter Pôle emploi après 5 ans d'enfer sur Terre parce que, appelons un chat, ça a été une expérience très très douloureuse. Je développe. Pôle emploi, je m'y suis engagée, pas parce que j'ai vu de la lumière. Hein. C'était des convictions personnelles. Je voulais aider les gens à construire un projet professionnel. Je voulais les aider à s'insérer. Je voulais les aider à s'orienter. Je pensais être rentrée pour ça. J'étais formée 6 mois dans cet objectif-là. Et je me suis rendue compte, parce que j'ai intégré l'ANPE avant que ça devienne Pôle emploi, un an avant. Et je me suis rendue compte que très vite, on a voulu faire de nous des petits soldats au garde-à-vous. Des flics en civil, même si ce serait beaucoup plus juste. Et là, du coup, les désillusions ont vraiment été très, très difficiles à gérer. Donc je suis passée de conseillère d'orientation qui bénéficiait de 3/4 d'heure, 1 heure par entretien à... petit flic qui bénéficiait de 10 minutes, 1/4 d'heure par entretien et dont le seul objectif c'était de savoir si les gens avaient vraiment cherché un emploi de manière active et s'ils l'avaient pas fait, je devais sortir le bâton, leur expliquer que c'était pas bien du tout et leur dire que si la fois d'après ils avaient pas fait davantage d'efforts, je les radiais. Donc c'est ce qu'on attendait de moi, évidemment moi je ne l'ai jamais fait et je suis tombée malade. Donc parce que ça c'est un aspect, après les violences à Pôle emploi sont multiples, il y a les violences de manière horizontale entre collègues parce que on tombe malade, c'est un peu... On tombe malade et c'est une variable d'ajustement, c'est-à-dire que c'est tellement difficile comme travail que les gens ont recours à des arrêts de maladie pour récupérer. C'est pas des arrêts de maladie de confort. Donc ça crée une tension entre collègues que la hiérarchie se charge bien de relayer. Donc en l'absence d'un collègue, on est censé recevoir des usagers à la place du collègue absent et la hiérarchie vous explique que c'est de la faute du collègue absent, sans jamais évidemment expliquer ce qui en réalité est une problématique. Donc il y a cette violence-là, il y a la violence de la hiérarchie, la violence des chiffres, la violence des chiffres truqués, où on demande de faire des fausses mises en relation, on demande de sortir des gens des chiffres du chômage, donc en motivant par l'attribution de primes, si on fait bien ce que la hiérarchie nous a demandé. Donc ça, voilà, ce sont les deux violences, je dirais,
internes. Donc il y a un conflit sur les conditions de travail et à la racine, il y a un conflit de valeurs, c'est ça ?
Complètement. Ouais. Voilà. Vraiment, on est à la croisée à la fois de positions individuelles, donc ce pour quoi on s'est engagé, et la manière dont les choses sont organisées, l'organisation du travail qui est pathogène et qui rend malade tout le monde. Donc ça, c'est une violence. Et de l'autre côté, la violence des usagers qui, pour le coup, est plus légitime, entre guillemets, parce que ce sont des gens qui sont précarisés, ce sont des gens qui ont besoin de notre aide, à qui on ne donne pas l'aide parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, et qui très justement arrivent en agence parce que parfois ils n'ont pas leurs allocations parce qu'il y a eu une erreur dans la saisie du dossier, parce que il y a des lenteurs, etc., et qui du coup arrivent très remontés, et on est l'interlocuteur égale punching ball, hein, très clairement. On n'est pas formé pour, parce que généralement ceux qui sont au premier accueil de l'agence, c'est des gens qui n'ont pas été formés, qui ne savent pas répondre, qui doivent courir en permanence dans l'agence pour obtenir des réponses et qui doivent gérer une queue qui ne désemplit jamais avec un effet de contagion dans cette queue. Donc dès qu'une personne s'énerve, toute la file est contaminée. Donc ça, c'est, je pense que c'est la pire des violences parce qu'à la fois on la comprend et en même temps on la subit.
Mais est-ce que c'est pas supposé être la violence que l'organisation du travail est supposée gérer? Parce que ça, c'est le boulot. Donc,
oui, complètement. Si le travail permettait aux agents de faire correctement leur travail, il y aurait beaucoup moins de dossiers non traités, de dossiers maltraités, de gens pas reçus, de gens mécontents. Donc c'est évident que la problématique, elle prend ses racines là-dedans, dans cette organisation du travail. Et derrière, comme rien n'est fait pour accompagner les agents, ou qu'au contraire tout est fait pour diviser, les gens ne gèrent plus rien. Ils n'ont pas les moyens, ils peuvent même pas s'entraider, ils peuvent pas compter sur leurs collègues. Et quand ils font face aux usagers, ils ont à la fois l'insatisfaction personnelle et en même temps on est des êtres humain, donc à un moment donné on se prend une violence qu'on n'a pas envie de se prendre, et donc tout ça fait que de toute façon Pôle emploi ne peut pas fonctionner. C'est pas possible.
Donc combien de temps tu as tenu?
5 ans, mais j'ai été, je pense que j'ai été record woman des arrêts de maladie pendant ces 5 ans, mais ça m'a rendue véritablement malade pendant un an, alitée. Et là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je sauve ma peau, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai pensé. Donc j'ai passé le concours d'inspection du travail, j'ai eu contrôleur et non pas inspecteur du travail. Donc aujourd'hui, je suis contrôleuse depuis 3 ans. Et même si, évidemment, il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à redire, énormément de choses à repenser, en comparaison de ce que j'ai connu à Pôle emploi, c'est pour moi, ça a été vraiment... Ça m'a sauvé la vie, très clairement.
Ah, tout va mieux à l'inspection du travail, alors?
Non, c'est ce que j'ai dit, justement. Il y a plein de choses à revoir, mais c'est évident qu'en termes d'autonomie, en termes d'intérêt, en termes de sens du travail, de solidarité, parce que quand même, bon, ça dépend des endroits où on travaille. Hein. Moi, j'ai fait 2 UT différentes et j'ai vu la différence, mais ça n'a rien à voir. L'organisation du travail est beaucoup moins pathogène, même si aujourd'hui elle tend à le devenir. Et moi, ce qui m'effraie, c'est que je sens, parce que j'ai intégré l'administration avant qu'elle soit réformée, parce que c'est la deuxième fois et que j'ai vraiment pas de bol, et ils essaient, pour moi, il y a une tentative de calquer la réforme de la NPE à l'inspection du travail.
Donc justement, ben, c'est un peu le sujet des états généraux aujourd'hui et hier. Donc c'était justement les réformes à la fois dans la fonction publique, dans le privé. On a vu cette imposition d'un management à tous les étages complètement mortifère. Donc toi, c'est pour avoir des réponses là-dessus que tu es venu aux états généraux.
Oui. Moi, déjà, dans mon métier, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la thématique des risques psychosociaux. D'accord. Donc forcément, quand on parle de management, quand on parle de lean management et puis des nouvelles formes de management, ça m'intéresse. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas objectivables, enfin qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas, c'est pas des éléments matériels faciles à saisir. Et du coup, je trouve ça très intéressant d'avoir d'avoir des gens qui nous expliquent comment ça se met en place, comment on l'identifie. Donc dans la pratique professionnelle, c'est très important de pouvoir. Et puis en tant qu'agent de cette administration qui se réforme, et qui se réforme mal évidemment, c'est aussi très important qu'on puisse identifier de quelle manière ça se met en place chez nous.
D'accord.
Et donc d'avoir des moyens, des pistes de résistance.
Et tu as trouvé des réponses là à ce stade ?
Alors j'en ai trouvé quelques-unes parce qu'il y a eu des interventions à mon sens très intéressantes comme les avocates qui sont intervenues, le syndicat des avocats de France, qui ont vraiment décortiqué une partie du projet de loi El Khomri, donc la partie sur la médecine du travail. Je trouve ça très très intelligent, très pertinent, et de mettre en perspective les enjeux, les manœuvres gouvernementales, etc. Et puis concrètement comment ça se passe l'avant et l'après. Donc ça c'était très intéressant. Il y a eu des interventions de gens qui venaient assister qui étaient aussi intéressantes, des témoignages qui étaient édifiants. Après, pour moi, la limite à cet état-là, mais je le comprends parce que le nombre de personnes présentes dans l'Assemblée fait que c'est difficile de procéder autrement, mais moi, j'attendais davantage de débats, de réflexions, de pistes. Je voulais sortir avec des pistes, avec des choses concrètes. Et ça, c'est un petit peu ma frustration aujourd'hui.
Et oui, ben voilà, donc deux exemples de gens qui ne trouvent pas leur place avec les nouvelles politiques managériales, hein, soit parce que ben finalement, même après les avoir essayés, ça leur convient pas et là on se met à chercher d'autres solutions, soit parce qu'on les subit directement au travail. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose là-dessus sur ces...
Ben oui, moi je voudrais juste continuer un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui me semble caractériser l'organisation du travail et le management, c'est vraiment un discours qui ne correspond pas du tout à la réalité. Le discours, c'est on veut des gens inventifs, innovateurs, créateurs, responsables, autonomes, etc. On leur fait confiance. Et dans la réalité, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que ce qu'on demande aux gens, c'est de se transformer en petits bureaux des temps et des méthodes pour s'infliger à eux-mêmes la logique et la philosophie taylorienne d'économie des temps et des coûts en permanence. C'est-à-dire qu'ils doivent faire l'usage d'eux-mêmes le plus rentable du point de vue de leur direction, qu'elle soit d'un service public ou qu'elle soit du privé. Donc il y a une pression énorme et on reste dans la même logique taylorienne parce que cet usage de soi-même qu'on doit faire en fonction des critères du patron, ça se fait avec aussi des méthodes, des méthodes standards, des méthodologies, des process, des protocoles, des bonnes pratiques imposées. C'est-à-dire que il y a un carcan dans lequel on se démène, chacun se démène de façon absolument débridée pour en quête d'une productivité et d'une efficacité et qualité du travail qui est impossible à trouver parce que ces méthodes ne correspondent pas à la réalité du travail.
Mmh. Eh ben, nous avons une chanson qui illustre ça très bien, c'est-à-dire qu'on peut dire que dans ces paroles, ces méthodes, justement, dans notre tête, elles mettent un blizzard, ouais. Parce qu'elles nous brouillent l'esprit. Donc, en avant pour le blizzard. C'était le blizzard et comment y résister, comment se libérer la tête, parce que c'est quand même un des enjeux majeurs. On va voir que, alors là, on a parlé du secteur public. Mm-hmm. Hein, effectivement, ce sont des méthodes qui sont nées dans le privé. Hein. Mm-hmm. Et on va tout de suite enchaîner sur une autre interview, qui est une interview de Gilles, qui est travailleur de la sous-traitance dans le nucléaire. C'est-à-dire que la sous-traitance, c'est un des piliers, effectivement, de cette nouvelle organisation du travail. Et quand on l'étend dans le nucléaire, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait des étincelles, quoi.
Bonjour, est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, Gilles Reynaud, j'ai 50 ans. Ça fait 27 ans que je travaille dans l'industrie du nucléaire et je suis un salarié de la sous-traitance.
Donc la sous-traitance dans le nucléaire, qu'est-ce qu'on sous-traite dans le nucléaire alors ?
Alors aujourd'hui, il y a plus de 80% des activités qui sont sous-traitées par tous les exploitants, que ce soit EDF, Areva ou le CEA, à des entreprises extérieures. Donc ça leur permet de faire du dumping social, parce que ce sont des appels d'offres où les entreprises répondent, et toutes les entreprises n'ont pas les mêmes garanties, les mêmes statuts en termes de conventions collectives.
D'accord. Donc cette sous-traitance permet d'écraser les coûts, c'est ça ?
Exactement.
C'est un peu le thème aujourd'hui, hein. C'est ça, les états généraux de la santé au travail.
Alors bien sûr, cette baisse des coûts se répercute sur des conditions de travail, sur des salariés, des opérateurs, des opératrices, et donc les risques psychosociaux, les TMS, les accidents du travail, les expositions dans l'industrie du nucléaire sont conséquentes, hein, les rayonnements ionisants, l'amiante. Ouais. Les produits, les agents chimiques et dangereux, les rayonnements neutroniques, enfin, nous avons une jolie panoplie d'expositions.
Oui, c'est ça. En plus de l'exposition nucléaire, il y a exactement tous les autres risques dont on a parlé aujourd'hui, c'est
voilà,
ça.
Les risques après classiques d'industrie, hein, les risques chimiques, incendies, enfin.
Et donc la sous-traitance, elle s'exerce jusqu'à quel niveau ? Alors ça descend assez bas, c'est ça ? On peut même faire appel à des intérimaires dans le nucléaire ?
Bien évidemment. Aujourd'hui, EDF a un gros besoin de faire des travaux pour mettre aux normes ses installations. Donc ça s'appelle le grand carénage. Donc pour nous, c'est le grand carnage, parce qu'il y a 5 fois plus d'activités que sur les arrêts que l'on faisait jusqu'à présent. Donc il faut 5 fois plus de personnel. Sauf qu'aujourd'hui, il y a du chômage dans notre pays. On n'est pas capable de former des gens correctement pour leur transmettre un savoir. Et donc, on prend de l'intérimaire, du CDD, pour que la personne soit opérationnelle rapidement et surtout qu'elle exécute.
On dirait qu'ils ont pas trop réfléchi, parce qu'ils appliquent exactement la technique qu'on peut trouver dans l'automobile, dans d'autres industries, mais c'est quand même ça gomme complètement les spécificités du nucléaire.
Alors oui, voilà, on s'oriente vers une industrie aujourd'hui low cost. Et c'est pour ça que je veux interpeller, faire réfléchir sur cette situation dans notre pays aujourd'hui où on a des exploitants nucléaires qui sont aux abois financièrement. Et derrière, les sacrifices, ça va être encore une fois de plus sur les salariés, certainement le contribuable aussi. Mais on ne peut pas accepter qu'une industrie soit low cost, pas le nucléaire. On n'a pas le droit de faire ça par rapport aux populations et aux salariés sur ces installations.
D'accord. Donc en fait, pour exprimer ça, tu es venu aux états généraux de la santé au travail hier et aujourd'hui, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Quand j'ai su qu'il y avait ces 2 journées de travail, de réflexion sur la santé au travail, on est à notre endroit, quoi. Enfin, c'est vraiment formidable d'être ici. Il y a des gens, des interventions très enrichissantes. Et puis, oui, la santé au travail, c'est capital. Si nos copains, nos copines qui travaillent sur les sites nucléaires ne sont pas sereins sur leur casque de chantier et dans leurs chaussures de sécurité, on va avoir de grosses déconvenues. Et ça se cloisonnera peut-être pas qu'au périmètre de l'installation nucléaire du site, ça sera peut-être aussi dans les populations avoisinantes. Donc,
parce que là, on en parle de la santé des salariés, mais c'est vrai qu'avec le nucléaire, il y a le risque accru que, à force de faire n'importe quoi, boum.
L'accident nucléaire est plausible en France. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Oui, c'est envisageable. Alors peut-être pas un tsunami, ce qui s'est passé à Fukushima, mais un tremblement de terre, pourquoi pas. Il y a des installations qui sont sur des zones sismiques. Mais surtout, moi, c'est de parler de métier que nous faisons. Nous faisons de la maintenance, du démantèlement. Et dites-vous bien que si on a des salariés aujourd'hui qui ne sont pas bien dans leur tête parce qu'ils sont harcelés par un management aujourd'hui « moderne », entre guillemets, nos copains peuvent faire des bêtises. À un moment donné, ils vont en avoir marre et faire des bêtises qui auront des conséquences certainement directement pour eux, mais ça risque aussi de déborder sur les autres. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à stopper rapidement.
Mmh. D'accord. Donc tu es venu. Donc tu as plutôt un sentiment positif de cette journée. Tu as dit que tu étais ravi de
ah, complètement. Et je confirme. Ces deux journées, je vais repartir plein d'énergie, plein de nouvelles connaissances, on va dire. Et surtout, je veux interpeller mes collègues de travail pour leur dire qu'il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise aujourd'hui face à ce qui se profile à l'horizon. La loi El Khomri, nous, on va travailler 2 heures par jour si ça continue, mais c'est pas acceptable.
C'est pas acceptable.
On a des vies de famille, on a des loisirs. Je vais pas perdre ma vie à la gagner, quoi.
C'est le thème, c'est effectivement le thème de la journée d'aujourd'hui, ne pas perdre sa vie à la gagner. Et donc ça, tu penses que cette journée va t'aider à porter un message et va t'aider à diffuser avec l'énergie nécessaire le message que tu viens de citer, en fait, c'est ça?
Alors oui, nous avons aussi créé un site internet, une association, mazonecontrôlée.com, et donc nous reprendrons tous les comptes rendus, toutes les vidéos, les interviews qui auront pu être faites ici sur ces 2 journées. Et puis, bien sûr, j'invite les auditeurs de votre radio à aller sur notre site internet, soutenir notre collectif et notre association, regarder les témoignages que les salariés ont pu laisser en expliquant ce qu'ils vivent, leur quotidien. Et je le répète, mais c'est une industrie nucléaire.
C'est l'industrie nucléaire. Mais il y a des bagarres en ce moment en cours dans le secteur du nucléaire, là.
Alors oui, il y a actuellement des salariés en lutte sur le site de Cruas dans l'Ardèche, Cruas Maïs, et le site de Panly. Donc ce sont des salariés de l'entreprise Nuvia Support, c'est le groupe Vinci. Et nos collègues aujourd'hui font des activités de logistique. Alors c'est le mot moderne parce qu'avant ça s'appelait la servitude nucléaire. Et donc nos copains aujourd'hui et collègues qui résistent dénoncent la convention collective Syntec qui leur est appliquée dans leurs activités.
Juste Syntec, c'est pas une convention collective des ouvriers de la métallurgie, hein?
Pas du tout. Alors c'est pour les bureaux d'études et les ingénieurs. Et donc par contre nous, les activités que nous faisons sur les sites EDF en particulier, lors des arrêts tranches, c'est des travaux de nuit, des travaux le week-end, voire des jours fériés. Et donc là, c'est au bon vouloir de l'employeur de majorer ou pas les heures que peuvent faire les salariés. Ouais. Donc cette convention n'est pas du tout adaptée aujourd'hui à cette industrie. Et on n'en veut pas. Et nos copains, nos collègues résistent. Et je suis très fier d'eux.
Ouais, très fier d'eux. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont raison. La convention Syntec, c'est une convention qui est systématiquement détournée. Et ça, c'est l'inspecteur du travail qui parle. On sait très bien qu'elle est utilisée dans toutes sortes de secteurs parce qu'elle est extrêmement flexible.
Oui, c'est la flexibilité, c'est du dumping. Alors c'est clair et net que les entreprises aujourd'hui obtiennent les contrats sur les sites EDF, mais derrière on méprise des métiers, on méprise des salariés, et donc à partir de là, on méprise pas les gens, c'est pas acceptable. Il faut que la machine soit en état, bien évidemment, il faut que la machine tourne, mais ce sont les salariés qui sont les garants de la sécurité et de la sûreté. Jusqu'au jour où à force de mépriser les gens, on va peut-être dire, maintenant, je me moque du résultat de mon travail. Ouais. Et nous n'avons pas le droit de le faire.
Ouais. Mais les gens en arrivent à ça, quoi. Si...
Oui, aujourd'hui, c'est malheureusement des propos que j'entends fréquemment à la machine à café, dans les vestiaires, des copains qui sont déçus de leur situation, méprisés par leur direction, des métiers banalisés.
Tu dirais qu'ils sont en grève aujourd'hui? parce qu'ils veulent faire leur boulot.
Exactement. Nous voulons travailler dans de bonnes conditions et être connus pour le travail que nous exécutons. Le courant électrique, l'énergie, c'est un besoin vital pour l'ensemble, tout citoyen, tout humain. Et donc le nucléaire, on ne peut pas le banaliser, quoi. Okay.
Bah, bon courage à tous les copains de Crua à cette
résistance.
Résistance. C'est nous qu'on gagne à la fin.
Exactement.
Donc, une réaction sur cette intervention du camarade sous-traitant
du
nucléaire.
Ce qui me frappe, ce qu'il dit de façon très lucide, c'est qu'il y a une attaque des métiers, il y a une attaque de la professionnalité des travailleurs. Alors que ce soit, comme il le décrit, par le biais de la sous-traitance, hein, on colle des gens, on les met en situation de simples exécutants, on leur donne pas les moyens de faire correctement leur boulot. Et d'un autre côté, on observe, par rapport aux travailleurs stables, hein, qu'on crée des précarisations subjectives, c'est-à-dire qu'on leur on crée des conditions qui font qu'ils ne peuvent pas profiter de leur expérience, de leur savoir, de leur connaissance, de leur métier, par une pratique qu'on voit partout, qui est celle du changement permanent. C'est-à-dire qu'on on restructure les services, on restructure les départements, on recompose les métiers, on change les logiciels, on déménage géographiquement, on crée de la mobilité systématique pour éviter que les gens aient un capital d'expérience, de savoir auquel ils pourraient avoir recours pour imposer leur point de vue dans l'entreprise sur leur travail, pour dire comment il faut faire. Justement, on a entendu cette intelligence remarquable de la personne qui vient d'intervenir, qui dit il faut que les gens puissent avoir confiance en leur travail pour pouvoir sécuriser des industries qui sont quand même des enjeux fantastiques en termes de sûreté. Donc là, ce qu'on voit en règle générale, c'est que pour contrôler les salariés, pour pouvoir leur imposer des méthodes de travail et des productivités maximales, on attaque leur savoir, on attaque leur métier pour qu'ils soient obligés de s'accrocher comme à des bouées de sauvetage aux procédures, aux méthodologies qu'on leur impose et qui sont pas les bonnes, qui sont pas pertinentes, qui ont été mises en place par des gens à distance dans les grands cabinets internationaux, donc à distance des enjeux concrets, des réalités du terrain. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très 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 grave, cette attaque de la professionnalité qui fait que ce soit dans le nucléaire ou dans les hôpitaux ou dans l'enseignement ou dans les industries, on met en situation d'incompétence les salariés, on les met en situation d'apprentissage permanent, de telle sorte à ce qu'ils soient complètement dépendants donc des procédures qu'on leur impose, de la hiérarchie qui leur impose des missions et qui les évalue. Et ça, c'est quelque chose de très très grave parce que ça a un impact sur la qualité du travail que les gens vivent, mais aussi des produits et des services. Et donc, ça peut mettre en danger des riverains, ça peut mettre en danger des consommateurs qui ont des qualités qui sont totalement insuffisantes. Il y a un vrai problème qui revient en fait à poser la question de à qui appartient le travail. Mmh. À qui appartient le travail? Est-ce qu'il appartient uniquement aux directions d'entreprise qui ont le droit de décider et de la qualité du travail et de la qualité des produits, des services, ou est-ce qu'on considère que c'est un enjeu de société et qu'il faut mobiliser les travailleurs? Parce que les travailleurs ont non seulement des métiers, des connaissances, de l'expérience, mais des valeurs citoyennes et des valeurs politiques aussi.
Et d'ailleurs, on voit bien, hein, ce qu'il dit aussi, c'est que pour se réapproprier son travail, il faut parfois passer par la grève, il faut parfois passer par, effectivement, il y a des grèves qui sont pas juste pour les salaires ou pour des choses comme ça. Il y a des grèves pour retrouver le sens du boulot.
Et pour éviter de produire des catastrophes au travail, que ce soit dans les hôpitaux, dans les industries nucléaires ou dans l'enseignement, pour éviter que, puisqu'on est souvent en interaction avec autrui, les autres fassent les frais du fait que vous ne pouvez pas travailler convenablement. Ça, c'est très très grave. C'est grave pour tout le monde, mais aussi l'image que peuvent avoir d'eux-mêmes les salariés. C'est pour ça qu'on comprend le burn-out, c'est pas tout simplement un épuisement professionnel, c'est un effondrement professionnel. C'est le sentiment qu'on peut pas arriver à faire son boulot, qu'on peut faire des bêtises très très graves et on vit dans la peur. Et il y a un effondrement réel qui rend bien compte du fait que on va droit dans le mur avec ces pratiques managériales. Cette politique de défiance systématique managériale qui consiste à dire il faut les verrouiller sans arrêt les salariés, leur imposer des manières de faire sans tenir compte de la qualité de leur engagement dans le travail et de leur métier, c'est quelque chose qui est catastrophique et pour les gens qui sont au travail comme pour ceux qui sont les destinataires de ce travail.
Oui, c'est pour ça qu'effectivement des fois les salariés décident
le retrait.
Ouais, ou la grève, et donc ils vont
voilà. Alors là,
au baston.
Voilà. Et ça, c'est bien.
inséré au fond des poches de son blouson. Angelo flippe à mort, il est encore plombé. Il a cul, filera des coups, prendra des lions. C'est peut-être con, mais tout est con. Les poings serrés au fond.
Voilà, donc le baston contre la fatalité. Et oui, des fois, faut savoir un peu y aller. Donc, la lutte des classes ne prend pas que ces formes-là, heureusement. Notamment, on peut aussi discuter, travailler ensemble, œuvrer. Voilà. Et donc, nous avons en exclusivité une dernière interview qui est celle d'Éric Bénel de Solidaire. Donc, qui nous explique un peu. Là, on a voulu aller un peu au fond des choses. Comment on met en place ces états généraux et comment on fait en sorte qu'ils deviennent un succès.
Oui, bonjour, Éric Bénel, l'un des porte-parole de l'Union syndicale solidaire et puis l'un des animateurs du collectif pour la santé des travailleuses et des travailleurs.
C'est le collectif qui est à l'origine des états généraux d'aujourd'hui.
C'est nous qui avons essayé de proposer ce cadre à toutes celles et tous ceux qui ont accepté de vouloir y participer, oui, tout
d'accord.
À fait. Ils sont nés, cette idée-là est née il y a plus d'un an maintenant. On avait lancé un appel qui s'appelait « Pour ne plus perdre sa vie, à la gagner mm-hmm. ». À l'époque, il y avait la loi Rebsamen qui était dans le paysage, qui risquait de s'attaquer à la fois au CHSCT, aux médecins du travail, à l'inspection du travail. Donc on avait lancé cet appel-là. Et on a fait deux ou trois réunions en 2015 avec l'idée de construire des états généraux des travailleuses et des travailleurs sur la santé. Et à partir de ces réunions, on a construit les états généraux qui ont eu lieu hier et aujourd'hui à Paris.
Mmh, d'accord. Donc, alors c'est quand même une grosse logistique, c'est un gros travail de réflexion. C'était quoi un peu les écueils que vous vouliez éviter en construisant ce truc-là ? Il y a des choses à ne pas faire ?
Alors le principal écueil, c'était surtout le collectif voulait absolument pas que les gens viennent pour nous écouter. Ce qu'on souhaitait, c'était vraiment des participations actives de tous ceux qui venaient, avec une diversité d'origine. Donc on voulait à la fois des précaires, des chômeurs, des sous-traitants, des syndicalistes, des simples salariés, des médecins du travail, des gens de l'inspection du travail, des chercheurs qui s'intéressent à la question de la santé au travail, des experts qui travaillent avec les instances représentatives du personnel. On voulait une grande diversité de tous les acteurs et toutes les actrices de la santé au travail qui soient présents dans ces états généraux, qui amènent leurs propres réflexions, leurs propres propositions, leurs propres thématiques, sans qu'il y ait une parole déjà figée, etc. Donc c'est pour nous, les états généraux, c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. À partir de tout le matériau qu'on va avoir accumulé à travers ces deux journées, qu'on a essayé, on a mis des rapportrices et des rapporteurs dans tous les ateliers, on a enregistré beaucoup d'échanges, on a filmé, ça a été diffusé en partie en live sur une web radio. Tout ce matériau-là, maintenant, on va le reprendre, on va le retransmettre à tous celles et tous ceux qui sont venus à ces états généraux et aussi à ceux qui voulaient y participer et qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont en train de se mobiliser contre la loi travail, par exemple, parce que
par
tout
exemple.
Ça est en lien. Donc on va retranscrire tout ça, on va le retransmettre, on va laisser aux gens le temps de se l'approprier. Et on va faire au mois de juin une nouvelle réunion avec tous celles et tous ceux qui veulent continuer pour voir à partir de tout ça, qu'est-ce qu'on peut maintenant mettre en place de manière très concrète. Alors on a des idées. Nous, par exemple, quelques-uns du collectif, on pense que, et ça rejoint beaucoup d'interventions qu'on a eues pendant ces deux journées, qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des endroits pour essayer de comprendre et de trouver comment faire sur ces questions de santé des travailleuses et des travailleurs, des salariés, des équipes syndicales, des fois des médecins du travail, etc. Et donc d'avoir des permanences pluridisciplinaires tenues par les collectifs, à Paris et en province, dans les autres villes, ça pourrait être une piste extrêmement concrète et qui répondrait sans doute beaucoup à plein de questions que se posent les salariés sur ces questions-là.
Oui, parce que là, jusqu'ici, on a eu des interrogations, on a eu pas mal d'interventions quand même très variées. Effectivement, ça, on pourrait dire que l'objectif est réussi, mais c'est vrai que c'est toujours la partie la plus difficile, c'est toujours, c'est quoi la suite ? Comment est-ce qu'on fait ? Ça, c'est toujours, on bute toujours sur ces problèmes-là, dans ces grandes espèces de grands raouts.
Voilà, c'est toujours ça la difficulté. Donc tout à l'heure, il va y avoir une conclusion, mais qui ne sera pas une conclusion. C'est une clause de revoyure plutôt, parce que on veut pas quelque chose de vertical. On connaît tôt ces structures verticales, on sait trop à quel point tout de suite les enjeux de pouvoir dépassent les enjeux réels. Nous, on pense que sur ces questions-là, il faut vraiment être horizontal, que chacune et chacun puisse apporter son écho, apporter ce qu'il maîtrise ou ce qu'il ne maîtrise pas, apporter ses questionnements, apporter ses revendications, etc. Et qu'à partir de ça, et sur le terrain, on puisse agir concrètement. Ça, c'est l'objectif principal. C'est pas de se lamenter, c'est pas de constater, c'est de construire ensemble des outils qui permettent d'avancer sur ces questions de la santé des travailleuses et des travailleurs.
D'accord. Donc c'est work in progress, quoi. On n'a pas fini.
On est loin d'avoir fini. En tout cas, ce qui est vraiment remarquable et important, c'est que le collectif a maintenant un peu plus d'un an derrière lui et il continue à agréger un certain nombre d'organisations. Récemment, le SMG, le syndicat des médecins généralistes, a rejoint le collectif. D'autres associations sont intéressées, des fédérations, des syndicats qui étaient présents aujourd'hui et hier ont dit aussi qu'ils étaient intéressés par rejoindre le collectif. Alors loin de se désagréger, au contraire, il grossit.
Il accumule des forces.
Il accumule des forces et sans doute que s'il est présent de manière très concrète sur le terrain et que les salariés le voient, ça sera un des outils qui permettra aux salariés de reprendre confiance dans leur capacité collective à engranger des victoires.
Donc voilà, on se donne les moyens, hein, on se donne les moyens. Et donc toi, tu étais aux États généraux, donc hier et avant-hier, Daniel, qu'est-ce que tu en as pensé? Voilà.
Oui, moi je fais partie du collectif, donc c'est effectivement pour nous tous une très grande satisfaction de voir que près de 500 personnes se sont mobilisées. Et surtout venant d'univers professionnel très différent. Moi, je trouve ça extrêmement réconfortant d'avoir les inspecteurs du travail, les avocats du travail, des médecins du travail, les syndicalistes, des chercheurs, des experts qui travaillent pour les syndicats et pour les comités d'entreprise, mener une réflexion collective avec des personnes de tous bords et parvenir à poser véritablement comme un enjeu fondamental la question de la santé au travail, parce que on nous rabat tellement les oreilles avec il y a tellement de chômage, il y a la guerre économique, etc. Donc à part les gens un peu fragiles qu'il faut sortir et mettre en inaptitude, tout va bien, hein, c'est-à-dire que il y a pas lieu de se plaindre et ça, je pense que parvenir à poser de façon extrêmement documentée, extrêmement experte, la question de la détérioration du travail, de la même manière qu'on met la question de la détérioration de la qualité du travail en perspective, c'est absolument fondamental. Donc, moi, je dois dire que c'est d'autant plus important que on a depuis 20-30 ans un processus qui a été aussi mis en place par le management dit moderne d'individualisation, d'atomisation des situations de travail, qui font que les salariés ont tendance à penser que tous les problèmes ne leur arrivent qu'à eux tout seuls et que les autres sont préservés, vont beaucoup mieux, etc. Donc cette nécessité de mettre en place une réflexion collective et une pensée collective sur la nécessité de lutter contre la détérioration de la santé, la légitimité de lutter contre cette détérioration, ça me semble très 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 important, et de voir tous ces spécialistes, ces experts de la santé s'impliquer personnellement, professionnellement, collectivement aussi, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Donc il faut que ça grandisse, que ça continue, que ça se décentralise effectivement le plus possible, mais il ne faut pas lâcher sur ces questions de santé au travail, comme il ne faut pas lâcher sur la question de la qualité du travail, les deux étant complètement liés.
Donc, effectivement, tout ça me fait penser qu'il y a largement de la matière pour une deuxième émission. Donc, j'annonce d'ores et déjà, le mois prochain, nous ferons une émission sur les suites, les pistes, et les expérimentations qui ont eu lieu aussi pendant ces états généraux et les suites que nous allons donner, car comme tu dis, effectivement, il faut absolument rien lâcher sur toutes ces questions-là. Donc juste un petit mot pour finir peut-être, alors juste sur peut-être sur le sentiment que tu sors avec sors des états généraux.
Mais je dois dire que j'ai eu un petit élan d'optimisme parce que j'ai suivi ces états généraux donc mercredi et jeudi, et puis l'après-midi, il se trouve que juste à côté de là où nous étions réunis à la Bourse du du travail. Il y avait le démarrage de la manifestation des jeunes contre la loi El Khomri, et de voir tous ces jeunes, alors que bon, on a beau dire, ils n'étaient pas nombreux, c'est faux, ils étaient dans des cortèges très resserrés, très denses, très motivés, très sérieux dans leur mobilisation. Je dois dire que les deux, en perspective, ça avait un côté un peu réconfortant. Et je me dis, bon, l'avenir n'est pas... À partir du moment où les gens se mobilisent vraiment, prennent conscience de l'importance de ce qui se joue au travail, bien, l'avenir n'est pas si, si triste, peut-être. Ouais.
On va niquer le blizzard.
Voilà.
The girl in the other room, she knows by now there's something in all of her fears. Now she wears it.